Salut à toutes et tous, c'est Queen Jolinard et bienvenue dans la pastille X.
Émission spéciale.
Au programme, cette fois-ci, donc, la critique du premier numéro du nouvel événement mutant Inferno, scénarisé par Jonathan Hickman, en présence à nouveau de Julien qui m'avait accompagné dans la critique du premier numéro de Trial of Magneto. Salut Julien.
Bonjour Queen, merci pour ton invitation.
The man who attacked you is an associate of his called Sabretooth.
Sabretooth.
Storm.
What do they call you? Wheels?
This is the stupidest thing I've ever heard.
Et puis, sans plus tarder, on va commencer. Alors, je précise juste les crédits. Alors, du coup, c'est dessiné par Valerio Chiti, ce qui explique son absence de la suite de Trial of Magneto. Et c'est colorisé par David Curiel, qui, je crois, est son coloriste habituel, en tout cas sur X-Factor et sur Trial of Magneto. Donc, Inferno, qui est la nouvelle balise. De l'univers mutant, bien plus que Ten of Swords quelque part, qui était à moitié un événement Excalibur, et que le Hellfire Gala, qui était plus un événement Marauders. Là, on est vraiment dans la nouvelle pierre angulaire que va poser Jonathan Hickman pour son univers mutant. Alors, dans un contexte particulier, je l'ai déjà évoqué lors de l'émission spéciale Oxbox, mais c'est la dernière série scénarisée par Jonathan Hickman dans l'univers mutant. Après, il va garder un rôle un peu distant de contrôleur, d'architecte, mais il va laisser tout le reste aux têtes d'affiche sur les séries. Je pense à Jerry Duggan, je pense à Cy Spurrier, je pense à Ben Percy, tout ça, toutes ces personnes qui vont continuer de faire vivre l'univers mutant jusqu'à la prochaine pierre angulaire, mais qui du coup ne sera pas l'œuvre directe de Jonathan Hickman. Voilà pour poser un peu le contexte et sans plus tarder, on va passer un peu sur notre avis général sur cet épisode. Et ben, je vais te demander, Julien, ce que tu en as pensé.
Oh bah écoute, moi, sans trop surprise, moi Hickman, je suis très 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 client. Alors j'entends les personnes qui n'aiment pas forcément sa manière de raconter des histoires, sa manière de construire, le côté un peu froid qu'il peut avoir de temps en temps dans la manière dont il raconte ses histoires. Moi je suis extrêmement client, hein, je suis très friand, il pourrait raconter un repas en détaillant juste le menu, que je trouverais ça quand même pas mal. Donc fatalement, je ne suis pas forcément parti avec un a priori négatif. Bon, mais force est de constater qu'il ne m'a pas déçu, hein, puisque, encore une fois, là, j'ai pris un grand, grand plaisir à lire ce premier numéro de 50 pages, hein, qui est quand même pas n'importe quoi. Et voilà, comme tu l'as dit, c'est une nouvelle balise, hein, c'est un nouveau moment de la franchise mutante post-Oxbox. C'était difficile à dire comme phrase, mais donc de l'après reprise de la franchise par Jonathan Hickman. Donc, bah, comme je l'avais déjà dit, effectivement, Hickman a posé un nouveau statu quo, a posé des bases, a posé des règles avec House of X et Powers of Ten. Il a laissé pendant 2 ans des personnages, des aventures se dérouler au sein de ce statu quo, en le faisant. Pas le faisant évoluer, mais en explorant certains des aspects qu'il avait mis en place, en précisant certaines choses, toujours comme tu l'as dit, avec divers scénaristes qui se sont chargés de différentes versions de cette franchise mutante. Et là, il pose un nouveau jalon, un nouveau moment important de la franchise. Il va y avoir fatalement un avant et un après, même si nous n'en sommes qu'au premier numéro, ça me semble à peu près évident. Après, je serais moins sûr que toi sur le fait qu'il n'écrira plus. Il reste en bon rapport, pardon, avec des scénaristes du bureau X. Il reste avec de bonnes relations pour Marvel. Ça m'étonnerait pas qu'il revienne dans quelques temps pour poser justement le nouveau jalon. Peut-être faire qu'une mini-série de 4 numéros qu'il pourra écrire éventuellement pour faire avancer son bébé.
C'est que c'est pas ce qui a été annoncé pour l'instant, c'est ce qui me fait me dire ça.
Ouais.
Officiellement, il ne sera plus scénariste de séries mutantes après Inferno.
Oui, alors, mais bon, moi je pense qu'on peut un peu attendre et on peut éventuellement s'attendre à une surprise dans le futur, Ce serait pas la première fois. Bon, il est en train de plancher sur un nouveau truc pour Marvel, un next big thing, comme ils ont dit. Donc, bon, il va être relativement occupé, mais ça m'étonnerait, justement, comme il reste quand même superviseur de la franchise. Bon, déjà qu'il n'ait pas son mot à dire. Alors, bon, moi, je suis triste, j'adore sa manière de raconter les histoires. Je suis très friand de cet humour à froid et de la manière dont il construit ses récits. Sur le long terme et le moyen terme. Donc fatalement, je vais être triste qu'il ne soit plus là, mais bon, voilà. Non, en tout cas, ce numéro, sans rentrer dans les détails, m'a encore procuré un grand, grand plaisir de lecture, de dessin. Hein. Voilà, Yos Kitty qui a un trait qui est très similaire à celui de Pepe Larraz. Donc effectivement, on sent bien une certaine continuité et dans le dessin et dans les intrigues et dans les éléments qui sont mis en jeu dans ce premier numéro de cette mini-série.
Très bien. Pour ma part, j'adorais, vraiment. Je pense que si j'avais pas aussi bien intégré, comment dirais-je, la narration des séries mutantes telles qu'il a fait dans House of X Powers of Ten, je pense que j'aurais moins bien compris le fonctionnement de cet épisode-là, parce qu'il reprend beaucoup certains tics de narration. Jusqu'à même faire des reprises, des copier-coller de certaines scènes. Enfin, les deux premières pages, l'hommage est présent. Et quand on sait comment ces pages avaient été conçues dans House of X Powers of Ten et comment elles s'agençaient avec le reste du récit, du coup, on peut mieux comprendre, je pense, ce qu'elles racontent. Je pense que tu te rappelles comme moi, hein. On commençait sur ces pages avec Charles qui disait à moi, mes X-Men, to me, my X-Men, à des personnes qui sortaient des cocons, on ne comprenait rien du tout, on ne savait pas quand est-ce que ça se passait temporairement ni rien. Et puis après, on revenait dessus une nouvelle fois quelques numéros plus tard. Ben, je pense que là, on a exactement la même chose, c'est-à-dire que ce qu'on voit, ça se passe après le reste du récit.
Il y a une vraie construction
et
miroir, effectivement, comme tu le dis, et pas
voilà.
qu'à ce moment-là d'ailleurs, puisque il y a aussi une autre technique qu'il a utilisée, en particulier au début de l'arc qui allait donner plus tard Ten of Swords, avec l'histoire d'Arako et de Krakoa et de ces choses comme ça, où il reprend techniquement des cases hein, qui étaient déjà dessinées dans House of X et Power of Ten.
Oui, et je pense qu'il y a aussi des reprises de certaines histoires sur la troisième vie de Moira.
Oui, tout à fait.
Je pense qu'il y a des reprises de cases de Pepe Larraz par Valerio Chiti. Pepe Larraz?
C'est ça.
Ou Herb et Silva.
Ah, non, je crois que c'était dans House of X. Hein, c'était peut-être dans Power of Tender, je t'avoue que
Ah non, c'était House of X2. C'était House of X2.
je t'avoue
Les
que.
Divines Moira.
Il faudrait que je le relise là, parce que je l'ai relu que deux fois et ça ressort dans 3 semaines
En
justement.
tout cas, on voit, enfin, vous voyez bien où je veux en venir. Qu'est-ce que tu avais pensé des visuels promotionnels?
Écoute, je les avais pas forcément beaucoup vus et j'avais pas forcément trop envie d'y aller, puisque je préfère découvrir les choses petit à petit. Les visuels ne m'avaient pas forcément dit grand-chose. Je t'avoue que j'étais dubitatif sur le choix du nom déjà, hein, puisque c'est un crossover
Ouais.
assez connu, hein, de la franchise mutante, mais qui n'a absolument
Je ne
rien à
sais même pas
voir.
ce que ça raconte.
Alors Inferno à la base, alors je crois me souvenir, ça doit dater de milieu des années 80 ou la fin des années 80, peut-être 86, 87,
Ouais.
quelque chose comme ça, de mémoire,
Ouais.
qui racontait en fait le retour de Madeline Pryor, avec une version méchante de Madeline Pryor, un peu, comment dire, la reine des monts en fait, tout simplement, qui
Oui.
revenait se venger de Cyclope et des X-Men, et qui mettait en fait l'enfer sur Terre, au sein de Manhattan, mais de manière extrêmement premier degré. Donc en fait, il y avait des démons
D'accord.
qui envahissaient, qui venaient des limbes et qui envahissaient les rues de New York. Moi, je me rappelle de belles scènes. Alors, c'est très décrié comme un crossover. Moi, c'est un des premiers que j'ai suivi de manière totale, hein, en fait, de bout en bout, en connaissant la franchise avant et en la continuant après. Donc fatalement, moi, j'ai une grosse affection pour Inferno. J'aimais beaucoup les dessins. Et ça utilisait à la fois la série X-Men, mais aussi la série X-Factor. Et d'ailleurs, c'est par l'intermédiaire de ce crossover qu'il me semble que l'équipe de X-Factor s'apercevait que les X-Men étaient toujours vivants.
D'accord.
Et se retrouver à l'issue. Alors, c'est aussi la continuation et la fin de pas mal d'intrigues qu'avait mis en place Claremont, en particulier avec Sinister, mais pas que. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même quelque chose d'important, mais qui visiblement n'a pas grand chose à voir avec ce que va nous proposer Hickman là pour le coup.
Ok, ouais, là c'est très certainement on comprendra le sens de ce nom Inferno qu'à la fin.
C'est probable, et puis j'ai l'impression qu'Hickman joue beaucoup avec l'histoire de la franchise en fait, et il joue beaucoup aussi dans les noms hein, de tout ça. Alors il reprend Sloth, même oui. Si c'est mine de rien une conclusion, un épilogue d'une mini-série, la Way of X. Trial of Magneto, c'est un peu la même chose. Donc, j'ai l'impression qu'il reprend justement les différentes bornes de l'univers mutant passé, de la continuité. Il leur rend hommage hein, tout en réutilisant et en faisant autre chose. Moi, je trouve que c'est pas mal. Et encore une fois, je suis très hickmanophile, donc je suis peut-être pas complètement objectif là-dessus. You and I are going to be good friends.
You just don't know it yet. Et bien, reprenons ce numéro 1 de Inferno. Donc, ça commence, comme je disais, par une double page qui rappelle les premières pages de House of X. Donc, sauf que cette fois-ci, c'est Emma qui assiste à la résurrection de Charles et de Magneto en portant Cérébro. Donc, c'est très certainement elle qui va leur implanter leur backup. Et donc, comme je le disais, vu la structure de House of X Powers of Ten, on peut imaginer que cette mort puis résurrection de Charles et du Eric arrive bien plus tard.
Oui, c'est bien possible, mais effectivement. Donc, il joue beaucoup sur les flashbacks et les flash-forwards, en l'occurrence, pour le coup. Ouais. C'est probable que cela risque d'arriver.
Mais est-ce que ça annoncerait un changement de leadership chez les mutants ?
Alors, on verra. De toute façon, effectivement, tu parlais tout à l'heure des visuels. Bon, c'est vrai que les visuels... Les fameux, ouais. Les fameux quatre bandes avec les amis, les alliés, les ennemis,
il y en a
etc. Il y en a trois, d'accord. Trois. Qui pouvait essayer effectivement...
Les chefs, ouais. Les chefs, les alliés et les ennemis.
Ouais, bon, mais qui pouvait effectivement prêter à beaucoup, beaucoup d'interprétations. Oh, je pense que, tu sais, Hickman, il a l'habitude de jouer avec ce genre de trucs, il a joué avec le marketing aussi, donc je pense que... Comme on l'avait fait pour Xbox, on avait beaucoup théorie craftée, on avait beaucoup essayé d'échafauder des théories, essayé de vérifier entre les numéros. Bon, bah écoute, on avait quand même été souvent surpris. Je pense que ça risque encore d'être le cas aujourd'hui, avec une légère différence, c'est que Xbox, on avait un numéro par semaine, et que là, effectivement, le rythme de parution risque d'être un tout petit peu frustrant.
Ok, ensuite on enchaîne donc avec des pages de prose expliquant que Orkis reste la menace numéro 1 pour les mutants, puisque Orkis désormais en possession d'une entité Nimrod, et on avait vu au cours de Oxbox que l'arrivée d'un Nimrod était la première étape vers la fin de la mutanité du fait de l'intelligence artificielle, pardon. Et on apprend l'existence de bases sentinelles, appelées des nodes d'ailleurs, et on découvre surtout qu'il y a eu au moins 13 tentatives d'incursion mutante sur les bases d'Orkis, plus 3 autres de façon dérivée, dont une, on ne sait pas ce que c'est encore, hein, puisque c'est toujours pareil, hein, les petits passages censurés. Mais surtout, il y avait quelque chose qui m'interpellait au début, je sais pas toi, mais c'est il mettait voilà, X-Force a tenté une insertion, enfin une attaque sur la base directement, et résultat inconnu.
Oui, ben encore une fois, hein, je pense que c'est des choses qui sont placées là par Hickman pour nous faire réfléchir, pour nous faire nous interroger.
Non, mais on a la réponse juste après. Mais sur le moment, je comprenais pas pourquoi le résultat était inconnu. Bah, on sait, soit ils ont réussi, soit ils ont échoué. C'était sans compter la logique liée à ce qui se passe si un mutant meurt.
Oui, alors après, effectivement, Orkis, d'ailleurs, la vérité commence au niveau de la franchise mutante à être connue. Hein, l'humanité, en tout cas, certains de ses antagonistes commencent à se rendre compte que les mutants... aurait sans doute un moyen de revenir à la vie. Ils commencent à s'interroger, et Orkis commence à être au courant de ça. D'ailleurs, maintenant, ils ont des preuves, hein, tout simplement, puisque...
Spoiler sur le numéro 3 de X-Men, le chef de Orkis a donné les infos à Ben Urich.
Ouais, d'accord, oui. Oui, effectivement, c'était dans X-Men, maintenant que tu me le dis. Oui, c'était il n'y a pas très très longtemps. Non,
ah
non,
bah, c'était la semaine dernière, je
c'est
crois.
Très intéressant. Et puis toujours les pages de récap. Moi, je suis toujours friand quand Hickman les fait. C'est synthétique et en même temps, ça dit beaucoup et ça plante beaucoup de choses pour la suite. Donc les pages suivantes qui relatent justement l'incursion de nos trois mutants, notre Suicide Squad, hein, un peu de la nation Krakoa,
yes.
M'a bien fait marrer en tout cas.
Ok, donc tout un passage d'Orkis qui montre que qu'ils essaient de comprendre le processus de résurrection, le fait que il y a pas d'évolution en fait dans les attaques, comme si effectivement les mutants n'apprenaient pas de leurs attaques, ce qui est logique, mais cependant comme les attaques continuent, ce que dit, alors je sais plus comment s'appelle ce personnage, j'en avais découvert dans House of X, c'est la femme sentinelle là, c'est que quelqu'un se rappelle.
La sentinelle Oméga, ouais.
La sentinelle Oméga, voilà, quelqu'un se rappelle, et c'est ainsi qu'on enchaîne sur un long passage sur Moira MacTaggert, donc dans sa troisième vie, un passage qui développe beaucoup plus longuement l'altercation qu'elle a avec Destinée et Mystique, qui mène à une de ses résolutions, un de ses objectifs, c'est il ne faut pas que Destinée soit ressuscitée.
Oui, c'est bien ça. Bon, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu et que, encore une fois, là, il reprend le procédé qu'il avait fait avec Arako, Krakoa et l'histoire. Donc, reprendre des cases et les développer. On fait exactement la même chose avec cette scène-là, qu'il développe beaucoup plus. Très intéressant, comme d'habitude, toujours assez glaçant aussi, puisque là, on voit effectivement hein, que la confrérie des mauvais mutants de Mystique, Destinée, Pierrot et les autres, voilà, sont assez, sont sans pitié, quoi, tout simplement. Puisque je vous le rappelle, hein, pour ceux qui l'auront lu, voilà, il a brûle vivante hein, pour qu'elle se souvienne, et lentement en plus.
Oui, oui, oui. Mais non, mais alors par contre, on découvre une chose, enfin on apprend une chose au moins, alors peut-être que tu retiendras autre chose, mais on sait comment tuer Moira.
Alors il l'avait déjà dit, il me semble, dans Oxfam,
ah ouais hein,
oui, que elle
bah,
pouvait...
Pour moi, c'était pas expliqué, pour l'avoir relu cet été pour faire la pastille X spéciale,
ouais.
Il me semblait pas que c'était aussi explicite que ça.
Ah, moi, il me semblait qu'effectivement, il fallait pas qu'elle meure avant l'apparition de ses pouvoirs mutants, sinon, effectivement, la mort était définitive. Il fallait que son pouvoir mutant apparaisse, et donc apparaisse à l'adolescence.
Ok. Bah, on sait toujours pas donc s'il y aura plus de 10 vies. Mais le problème, c'est que tel que ça fonctionne, si elle meurt dans sa 10e vie, on ne saura pas ce qui se passe dans la 11e.
Écoute, a priori, d'après
sinon, on changerait d'univers.
Ce que n'arrête pas de dire Destinée, hein, si elle fait le bon choix, elle aura une 11e vie. Je pense que le passage d'Hickman sur la franchise pourra se terminer par l'éventuelle mort de Moira dans sa 10e vie, avec un choix qu'elle fera, qui sera positif ou négatif pour elle ou pour le monde mutant, qu'on découvrira, je pense, dans un épilogue, ce qu'il en sera et est-ce qu'elle reviendra dans une 11e vie.
Ah oui, avec une 11e vie où elle mourrait adolescente.
À voir, puisque de toute façon, ça veut dire quand même une 11e vie, ça veut dire un reboot de la franchise, techniquement.
Mais c'est ça qui me terrifie, c'est que si on... Enfin, le personnage a tellement d'importance maintenant que on sait que si elle meurt, l'univers que l'on suit ne sera plus le bon, entre guillemets.
Alors, entre guillemets, parce que l'univers qu'on suit, c'est celui qu'on suit. Après, il y a le multivers, il y en a une infinité. Donc, si on choisit de suivre la vie numéro 10, même après la mort de Moira, on continuera de suivre cet univers
oui.
numéro 10. Ce sera un
oui,
choix.
Mais,
par contre, ça peut être effectivement...
Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir ce qui se passe
bien
dans
sûr, la 11. Bien sûr, bien sûr. Mais effectivement, si on est sur une 11e, ça semble plutôt une porte de sortie pour rebooter la franchise, tu vois.
Ouais.
Et là, de ce côté-là, tout sera à refaire. Hein. Et donc, du coup, c'est un moyen qui est plutôt très malin, d'ailleurs, hein, pour justement éventuellement rebooter la franchise et permettre de repartir sur des bases saines, puisque, enfin, des bases nouvelles, puisque, mais c'est vrai que là, ce statu quo mutant est quand même à une certaine emprise sur l'univers Marvel, pour pas dire une emprise certaine, hein, puisque là, quand même, ils ont développé à différentes échelles, terriennes, galactiques, etc. Donc c'est plutôt malin. Bon, j'espère qu'ils l'utiliseront pas, ou qu'ils l'utiliseront le plus tard possible après avoir terminé de raconter ce qu'il avait raconté. Hein, mais bon, écoute, on n'est pas à l'abri. C'est toujours très malin, de toute façon, de la part d'Hickman, hein, d'avoir fait ce choix, d'avoir planté ce genre de graines pour le futur.
Hey, it's me. Prove it. You're a dick. Okay.
Ensuite, donc, un long passage de discussion à nouveau entre Moira, Charles et Eric, qui revient sur, à nouveau, hein, sur le problème destiné, le problème des précogs, le fait que Moira est le gros secret de la mutanité, hein, qu'elle est complètement dissimulée, cachée aux yeux de toutes et tous. J'ai trouvé ce passage quand même un peu long, je dois reconnaître. Je suis pas sûr qu'il avait besoin d'être aussi étendu, sachant que bah, globalement le résultat est. Enfin, on pouvait s'y attendre, hein, c'est-à-dire que bah, là maintenant elle n'en est plus au stade de promettez-moi de ne pas le faire, elle est au stade de assurez-vous que ça ne puisse pas être fait.
Oui, alors effectivement, bon, c'est une discussion bon, qui montre quand même pas mal de choses, hein, que Magneto et Charles sont devenus de grands pragmatiques, hein, ils l'assument d'ailleurs, hein, ils sont capables de faire ingérer à Moira. Un tracker, hein, tout simplement, hein, depuis
oui.
Toujours pareil, une scène de Xbox, hein, qui est rappelée. Après, moi, ça me dérange moins, parce que effectivement, Moira était et peut être objectivement considérée oui. comme la grande absente de ces deux dernières années, puisque c'était quand même le pivot, hein, de cette relance, et effectivement, le centre de beaucoup de questions posées dans les deux maxi-séries, enfin les deux mini-séries qui forment une maxi-série, et pour laquelle on avait très très peu de nouvelles depuis. Donc c'est un retour fracassant, un retour intéressant, et bon, ça, je suis moins choqué du fait qu'elle soit aussi présente. Je pense que c'était quand même important qu'elle revienne et qu'elle s'exprime, qu'elle exprime son ressenti justement dans ce nouveau statu quo.
Très bien. Ce qui était assez rigolo, c'est de, enfin, après coup, hein, c'est de voir le passage entre Charles et mince, comment il s'appelle? Sinistre, et de voir la tête de Sinistre après coup, à la toute fin. On y reviendra, mais
oui.
C'est assez savoureux.
Oui, oui,
on a une nouvelle page de prose, là, qui concerne Black Tom Cassidy. Je pensais qu'on allait suivre le... Enfin, qu'on allait voir la suite après coup, mais non, c'est une petite... Je sais pas ce que ça va annoncer, clairement.
Bon, ça va annoncer quelque chose, en tout cas, clairement. Hein. Il met pas ce genre d'élément pour rien, Hickman. Donc,
Bien entendu. Mais alors, à quoi peut-on s'attendre? En gros, ce que ça dit, c'est Black Tom est au mieux de sa forme, mais en même temps, il est au plus bas de sa forme.
Oui, et puis on retrouve Black Tom, d'ailleurs, dans une autre série de cette semaine, hein, dans Wolverine, justement, où il vient aider Wolverine. Bon, tu verras à la fin.
Ah, j'ai pas encore lu.
Ce qu'il en est.
Donc, il y a un lien?
Non. Je n'ai pas l'impression.
Non.
Black Tom est fortement lié avec Krakoa, l'entité, hein, sur le coup. Donc du coup, effectivement, à chaque fois, il a une importance. Il intervient dans le récit quand Krakoa intervient aussi dans le récit. Et là, en l'occurrence, bon, tu verras sur la fin de l'arc, il y a une vraie raison qui l'amène. Après, ce que Hickman compte en faire dans Inferno, je n'en ai pas la moindre idée.
Petit passage sympathique avec Doug, Cypher. Ensuite, il y a peut-être pas grand-chose à en dire, c'est juste ça rappelle l'importance de ce personnage pour l'ensemble.
Ouais, j'ai très peur pour lui, moi, du coup.
Mais est-ce que tu... T'as peur pour lui? Ah, oui.
Ouais, j'ai très peur pour lui. Il l'humanise beaucoup, il voit son rapport avec sa femme, il voit le rapport avec Krakoa, on le sait, le rapport avec Warlock aussi. Bon, il faut savoir que Doug, donc Cypher, est d'un des persos... Alors moi, c'est vrai que ça m'avait marqué à l'époque, hein, puisque j'ai débarqué à peu près à ce moment-là dans la franchise. Donc il faisait partie des nouveaux mutants, il a toujours eu un problème avec son pouvoir qui était utile, certes, mais pas forcément trop utile dans les bagarres, dans les missions des nouveaux mutants, et c'est un personnage qui va mourir, en fait, très tôt, et qui va représenter souvent le deuil, d'ailleurs, au sein du groupe des nouveaux mutants, qui sera suivi derrière par Warlock, d'ailleurs, et c'est pour ça que le retour de ces deux persos est intimement lié, parce que, justement, je me rappelle d'une case où, effectivement, il verse les restes, les cendres de Warlock sur la tombe de Doug, avec une petite étincelle qui, pour chaque membre, enfin, pour chaque fan de comics, que chaque fan de comics sait à quoi cela doit correspondre, hein, pour une annonce de retour futur éventuel, hein, ce qui fut le cas, mais après quelques années quand même. Donc là, voilà, j'ai un peu peur pour Doug, pour l'avenir. J'ai peur qu'il y ait un sacrifice de ce personnage qui entraînera des conséquences assez graves pour Krakoa et pour l'entièreté de la nation mutante.
Ouais, bah surtout qu'en plus son épouse c'est pas n'importe qui quoi, c'est une des plus puissantes guerrières de Arako. Donc je pense que s'il arrive quelque chose à Doug, on peut imaginer qu'elle se contente pas de pleurer dans son coin. Hein.
Certes, mais après, là, je suis en train de relire aussi Ten of Swords, là, puisque je suis en train de terminer le deuxième tome qui est paru en français, en attendant avec impatience la suite. Quand il s'agit pour Doug de partir combattre pour le tournoi dans l'autre monde, Krakoa, il est tout sauf chaud. Hein. Il dit qu'il est d'une importance fondamentale et qu'il veut qu'il reste.
Oui, c'est vrai que Krakoa, c'est vrai qu'il y a aussi son lien avec Krakoa. Je pense qu'effectivement, les trois personnages que sont Bay, Warlock et Krakoa, s'il arrive quelque chose à Doug. Ça ira mal pour le reste du monde, je pense, et en tout cas pour les personnes qui seront impliquées dans cette mort.
C'est ça, donc il plante encore quelque chose, donc du coup à voir ce que ça va être pour plus tard, hein, puisque c'est pas innocent tout ça.
Ouais, tu vois, j'avais pas pensé à quelque chose d'aussi tragique, que ça annonce quelque chose d'aussi tragique, mais maintenant que tu le dis, effectivement, ça me fait froid dans le dos presque.
Bah, depuis moi, Games of Thrones, je sais que dès que j'apprécie un personnage, je commence à avoir peur pour lui. voilà, j'apprécie beaucoup Doug, hein, ils le font passer pour quelqu'un d'éminemment sympathique, hein, beaucoup de gens l'aiment, il est en plus central. Donc j'ai peur pour lui.
Ensuite, changement dans les capitaines. Cyclope, étant leader des X-Men, estime que son rôle de chef des armées ne peut plus lui convenir. Donc du coup, il cède sa place à un autre capitaine qui est Bishop, donc qui devient le nouveau capitaine commandant. Également aussi, on officialise le rôle de Psylocke en remplaçant de Gorgon, hein, Gorgon qui a désormais la mentalité d'un enfant de 8 ans depuis les événements de Ten of Swords et sa résurrection. Pas grand chose à dire sur le moment sur cette scène, cependant on sait que grâce au du fait des visuels promotionnels que ça aura peut-être son importance.
Oh, ça aura probablement son importance, encore une fois.
On voit pas Colosse. Enfin, on voit pas Colossus, mais...
Non, il y a une bonne partie des membres du conseil qui sont présents pour cet adoubement, hein, on peut appeler ça un adoubement, hein, de Bishop en tant que nouveau capitaine. Bon, j'aime bien moi, les rapports, là. J'aime bien Magic comme capitaine, j'aime bien Psylocke, voilà. Puis j'aime bien les autres membres, ça fait un petit crew sympathique.
Mais attends, je suis en train de calculer, il manque... ouais, il y a quasiment tout le conseil, effectivement.
Bah d'ailleurs, ça va être...
Quasiment tout le conseil. Bah, il manque Mystique
bah d'ailleurs, la
et
question,
il manque Cho.
La question de remplacer les places vacantes au conseil va vite se poser, en particulier dès ce numéro, d'ailleurs.
You're gonna give me the keys to your car and some money for gas, or you're gonna wake up in the hospital. Trust me, I know how these things play out.
Oh, because you're from the future.
No, because of these.
Bah, dès la suite, effectivement, c'est la dernière scène. Après, c'est... Alors, faut expliquer que... avant cette scène, dans les discussions qui impliquent Moira, elle avait sous-entendu l'idée qu'il fallait que Mystique s'en aille du conseil. Et donc là, dans ce conseil, Magneto et Professeur X posent l'idée qu'il devrait y avoir du changement, bah, ne serait-ce que pour remplir les deux places vacantes, hein, celle d'Apocalypse et celle de Jean Grey, et pourquoi pas d'autres changements s'il y avait des volontaires. C'était sans compter Mystique, et un retournement que je ne pensais pas voir venir de cette façon-là. Bon, bien entendu, Sinistre qui est mort de rire, bah, ça révèle un peu le poteau rose, bah, c'est l'arrivée de Destinée.
Ah oui, Destinée.
Mystique qui propose donc Destinée à la table en plus de Charles et de Eric.
Oui, alors justement, ça s'annonce plutôt bien pour la suite de cette mini, hein, avec cette arrivée.
Ah bah ça annonce beaucoup de choses, effectivement, là, je veux dire, dans le genre bombe, celle-là, elle est monstrueuse.
Oui, alors moi, c'est vrai que j'étais surpris, puisque je voyais plutôt partir sur le fait que, alors, il faut se souvenir que Destinée avait fait promettre à Mystique... de la faire revenir ou de
coûte que coûte
s'il refusait de tout brûler, hein, tout simplement, ouais. D'où le terme Inferno, et je pensais qu'on allait tourner autour de ça, donc l'arrivée de Mystique, s'il s'agit bien de Mystique, hein, toujours pareil, puisque avec ce masque tout le monde peut se cacher.
S'il s'agit
derrière.
Bien de Destinée, tu veux dire.
Pardon, oui, excuse-moi, de Destinée, bien sûr, à voir si ça va être effectivement Destinée qui est bien derrière ce masque, hein, et qu'est-ce qui va se passer du coup avec ce précoque, qu'est-ce qui va se passer avec Moira, etc. Donc Voilà, je me souviens d'un truc qui m'avait...
Le numéro 2,
Oui,
Le numéro 2 va être dingue.
Ouais, ça va être sympa, mais de toute façon, je pense que tous les numéros vont être dingues, vont être bien construits et vont donner envie de voir la suite. Après, voilà, moi je m'interroge beaucoup sur le rôle de Moira, puisque la chose qui m'avait vraiment choqué dans les visuels promotionnels dont tu parlais tout à l'heure, c'était surtout que Moira faisait pas partie du groupe qu'on pouvait imaginer au sein de ces visuels. Donc, à voir ce qui va se passer. Est-ce que cela va annoncer une certaine guerre civile au sein des mutants? Voilà, je pense qu'on peut s'interroger et attendre avec impatience la suite.
Très bien. Donc, suite qui sortira le mois prochain. Alors, j'ai pas la date exacte. Par contre, donc, ce sera dessiné cette fois-ci par Stefano Caselli, donc, qui retrouve Jonathan Hickman après avoir dessiné sa première... Première série Marvel d'importance qui était Secret Warriors. Je sais pas si tu avais lu cette série.
J'avais lu Secret Warriors, le début en tout cas. Mais ouais. Je voulais me procurer justement le Deluxe qui était sorti là, chez Panini, qui m'intéresse.
Il y en a trois.
Qui me manque. Il y en a trois, d'accord. Alors qui me manquait dans ma collection d'Hickman et d'Hickmanophile. À voir donc là-dessus. Bon, je trouve ça quand même un peu. Bon, à voir si y a quelque chose d'important qui est fait avec ce changement de dessinateur. Mais bon, je suis toujours un peu déçu. Qu'il n'y ait pas un seul dessinateur pour ce genre de mini-série.
Bah en tout, il y en aura trois, puisqu'il y aura aussi Herb et Silva.
D'accord. Bon,
c'est justement, comme tu l'as dit, peut-être que tous les numéros seront volumineux, et donc effectivement, sur un rythme mensuel, ça peut être difficile à tenir pour un seul et unique dessinateur.
50 pages, c'est même impossible à tenir. Donc, effectivement, si c'est des numéros, alors après, voilà, c'est des dessinateurs qui n'ont pas des styles très opposés, hein, donc c'est des styles qui sont proches. Donc, pourquoi pas? Là, Valerio Schiti, sur certaines planches, on pouvait
il fera 52 pages.
Du Pépé Larraz. Le prochain, le numéro 2.
Ouais.
Bah, écoute, très bien. Bon, écoute, ça fera quoi? Bah, une petite 200 pages, hein, si on a 4 numéros dans la série. Écoute, c'est bien mieux que.
Bah, ça a l'air d'être parti pour faire ça, effectivement. Hein.
Bon, bah écoute, tant mieux, à voir comment ils vont nous le publier en VF, est-ce que ce sera en un seul tome ou en deux.
Ah bah il y a déjà le hardcover qui est sollicité, alors sans date, hein, mais il ferait 192 pages pour un prix de 40 euros.
Donc en un seul tome, ouais, bah écoute, parfait, Panini semble suivre...
Non, pas Panini, hein.
Oui, mais Panini semble suivre le découpage et le mode de parution de Marvel, donc voilà, c'est ce qu'ils ont fait pour tous les tomes jusqu'à présent, donc je pense qu'ils feront la même chose pour celui-là aussi. Très bien.
Ouais, toujours 52... Ouais, bah c'est ça va être des numéros de 50 pages à chaque fois.
Quel plaisir, ouais, ça va être super. Bon, mais j'ai très hâte. Hein,
donc
voilà.
Ça va être très volumineux.
Alors, le problème des épisodes d'Hickman dans la franchise X, c'est que le reste, est, bon, même quand c'est intéressant, c'est quand même
paraît fade
un
en
peu
comparaison.
Fade en comparaison. On est d'accord. Bon, moi, j'aime beaucoup. Je suis quand même très fan. Je m'en suis pas caché de la franchise mutante où je prends beaucoup de plaisir à lire. En particulier avec le mode de parution choisi, titre magazine avec des séries qui s'alternent. Que ça passe beaucoup mieux, que ce soit pour les séries que j'aime bien ou les séries que j'aime un peu moins, hein, voire que j'aime pas du tout, comme Children of the Atom ou Excalibur. Donc, moi, ça me convient parfaitement. J'ai lu à la suite d'Inferno les deux autres numéros de la franchise X qui sont Sword et Wolverine, qui sont sympathiques, du coup. Peut-être un peu plus anecdotiques, hein, en comparaison.
Mais pas transcendant.
Écoute, un petit check-it pour Sword, qui est une histoire autocontenue, hein, donc avec un début, un milieu, une fin, qui raconte quelque chose d'important pour la franchise, bon, important en tout cas pour Arako. Celui de Wolverine est la fin d'un arc, de l'arc qui était en cours depuis plusieurs numéros, depuis le gala en tout cas. Et va
sur
planter
les...
un peu la suite aussi.
Sur les diamants.
Sur le vol des diamants logiques, la destruction du maraudeur, sur les fameux pirates d'Arako, et le personnage qui a fait son apparition dans Ten of Swords et qui a une peau en adamantium. Voilà. Et donc, voilà, ça va être fin à cette arc narratif solenne, c'est ça, voilà. Je me rappelle de Tarn, qui est un personnage intéressant puisqu'il a deux grosses testicules qui lui pendent des oreilles, en plus d'être le mutant type d'Arako, donc mauvais, méchant, qui a un certain goût pour la violence et pour lequel il faut pas trop l'en compter, quoi. Voilà. Mais bon, voilà. Non, Solène, moi, c'est un perso que j'aime bien. Donc, l'épisode de Wolverine est toujours, comme d'habitude, toujours intéressant. Mais voilà, c'est comme d'habitude. Moi, après des épisodes d'Hickman, j'ai tendance à moins aimer les choses qui se passent après.
Et ben, je ne les ai pas encore lues et je pense qu'il va falloir attendre un petit peu de temps pour que ça apparaisse dans les pastilles X. Je tenais absolument à faire Inferno aujourd'hui pour coller à l'actualité, parce que là, c'est l'actualité chaude de la vie des mutants. J'ai loupé Onslaught Revelation, j'ai loupé le timing pour Onslaught Revelation, mais là pour Inferno je pouvais pas manquer le coche. Donc voilà, chers auditeurs.
Oh, Onslaught Revelation, c'est un épilogue, hein. C'est un épilogue de Way of X. Inferno, c'est une borne, un moment extrêmement important dans la franchise mutante reprise par Hickman, aussi important qu'Oxbox. Donc effectivement, tu as eu bien raison de pousser un peu le
truc. Je ne baisserai pas pour autant l'importance de Onslaught Revelation. Ce que pose ce one-shot me paraît à ce stade-là aussi essentiel que a pu l'être Ten of Swords ou certains éléments, pas tout, mais certains éléments de Oxbox ou de ce que amènera Inferno. Je pense pas que ce soit... C'est pas anecdotique pour le coup.
Ah non, anecdotique certainement pas. Mais voilà, comme je te dis, je pense qu'il y aura un avant et un après Inferno.
Oui, c'est évident.
Il y aura, voilà, mais Hickman s'est posé ses jalons. Il y avait un statu quo après Oxbox et avant Inferno. Il y aura un statu quo après. Mais d'après ce qu'il avait dit, effectivement, il avait prévu que ce soit le premier arc ou le deuxième. J'ai pas bien compris s'il considérait qu'Oxbox était le premier arc. Il avait construit une histoire en trois actes. Il va partir à l'issue de ce premier acte, a priori, puisque les poules de scénaristes ont envie de continuer à jouer avec les jouets justement qui leur ont laissé avec ce statu quo là. Je pense quand même que le statu quo va évoluer peut-être un peu plus sur le peu plus long terme que ce qu'avait prévu Hickman, et je continue quand même à avoir bon espoir qu'il nous fasse un de ces jours ne serait-ce que des petits numéros marqueurs, bornes encore une fois pour l'avenir de la franchise. Bon, après c'est peut-être moi qui me dis ça pour me consoler, hein, mais j'espère ne pas me tromper.
And help us. Fight with us.
Fight with you? Or join the team? Be an X-Man? Who the hell do you think you are? You're a mutant. The whole world out there is full of people that hate and fear you, and you're wasting your time trying to protect them? I got better things to do.
Bah écoute, Julien, merci encore pour ta participation. Je verrai ce qu'on fera pour la suite. Peut-être que je te solliciterai pour les autres numéros. Cette fois-ci, c'est sûr, contrairement à Trial of Magneto, je pense que la série est beaucoup trop importante et chaque numéro sera beaucoup trop important pour pas que j'en fasse des épisodes spéciaux systématiquement. Est-ce que ce sera avec toi ou est-ce que ce sera avec d'autres personnes volontaires? L'avenir nous le dira. Donc rendez-vous le mois prochain pour le numéro 2 de Inferno, dessiné cette fois-ci par Stefano Caselli. Et puis sinon, on se retrouve très très prochainement donc pour la suite des pastilles X avec rattrapage du programme de ce mois de septembre. Et retour, je l'espère, très rapidement du rythme hebdomadaire.
Eh bien écoute, merci pour ton invitation, et puis donc à bientôt éventuellement.
Ben déjà, à bientôt pour l'épisode spécial Ten of Swords, qu'on fera ensemble, toi et moi, avec la compagnie aussi de Aurélien CM de Panini Comics, et de Steve, le tenancier de Comic City.
Le boss.
Le boss. Je vous fais des bisous. Ciao.
Bye, bye à tous. À bientôt.